Chapitre 1. Pour un passé perdu. Un rire éclatant fit sursauter Joël. Il se retourna et, un instant aveuglé par le soleil, ne vit rien. Il portait une casaque jaune et mauve. Quelques cheveux blonds s'échappaient de sa toque. Il paraissait dérisoirement jeune et fragile. Il distinguait maintenant une silhouette familière, non loin de lui, dont les contours à contre-jour le firent tressaillir. C'était pourtant tout à fait impossible, absolument inimaginable, ridicule même. Frédéric, à Auteuil ? Ne vous battez pas avec lui, il s'épuise. Mais ne lui laissez pas prendre trop d'avance. Il a peur de la rivière, et il faut bien l'encadrer. Les paroles de René Banse se perdirent. Joël les avait entendues sans les comprendre, et d'ailleurs, tout cela lui était devenu indifférent. Le champ de course, son cheval, l'entraîneur, et jusqu'à ce grand prix des dragues sur lequel il comptait tellement. Frédéric, les jambes de Frédéric, son sourire, sa timidité d'adolescente. Adolescente, c'était il y a longtemps. « Destrée, je vous parle !» Joël se retourna vers René et fit semblant de s'intéresser à ses commentaires. Il trouvait tout cela inepte. Faire tant d'histoires pour le comportement de ce pur sang vicieux, alors que Frédéric riait. Au rond de présentation! Ce cri de ralliement sembla parfaitement déraisonnable à Joël. Qu'est-ce qu'ils avaient donc tous à se précipiter au rond sur l'ordre de Banse? Est-ce qu'ils ne savaient pas que Frédéric était là? Pour eux, évidemment, Frédéric était un vague souvenir sans importance. Joël les suivit à regret. Il jeta un dernier coup d'œil par-dessus son épaule. La vision était toujours là, ravissante dans un tailleur blanc, longue, réelle. Mais elle ne riait plus. Elle parlait à un homme qui se penchait tendrement vers elle. Joël se sentit impuissant. Il n'osa pas faire un geste pour attirer l'attention de Frédéric. Et, pour cet instant de lâcheté, tant de choses risquaient de lui échapper à nouveau. La vie est souvent mal faite, cruelle, absurde. Tandis que Joël s'éloignait, Frédéric continuait son bavardage. « Tu imagines à quel point tout cela me paraissait prodigieux, fascinant, démesuré. J'avais 16 ans. » L'homme, en face d'elle, sourit gentiment. « Tu aimes beaucoup ton pays, Frédéric. »«
Oh oui !»
C'était un cri du cœur. Il la prit par la main. « Viens, nous allons rater la course. »«
Tu sais, » reprit-elle en marchant, « il a une bonne chance et j'ai terriblement confiance en lui. »«
Tu ne me sembles pas très objective, chérie. Né de cuir n'est ton favori que parce que tu le connais et que tu l'aimes. » Mais cela ne lui donne aucune chance effective.
La jeune femme ouvrit la bouche, ulcérée.
Oh, ça ! Non mais, qui connaît les chevaux ? Toi ou moi ?
John l'enveloppa d'un regard affectueux. Toi, bien sûr.
Puis, sans raison, il se mit à rire.
Tu as vraiment l'air furieux, ma chérie.
Je ne mets pas un seul instant en doute tes connaissances hippiques.
Ils atteignirent la tribune centrale. Elle se mit à gravir allègrement les marches.
Si tu savais à quel point je suis ravie de revoir Auteuil.
Mais je sais, tenta de protester John.
Non, tu ne sais rien du tout. Tu es un touriste, rien de plus. Moi, c'est mon pays, ma ville, mon champ de course, mes souvenirs.
Une cloche les informa du départ de la course.
Hé, viens vite, nous allons tout rater. Come, my dear, quick!
Une fois qu'ils furent installés dans la tribune, Frédéric déplia son programme.
Nez de cuir, voilà. C'est très amusant de voir son nom sur un programme.
Madame Manderley.
Au fait, je suppose que si tu as si peu confiance en lui, c'est parce qu'il m'appartient, n'est-ce pas? Mais j'ai l'œil pour les poulains et je savais que celui-là ferait un très bon cheval. D'ailleurs, tu vas voir.
John murmura. S'ils se sont aussi dépaysés que moi en France, ils risquent de mal courir.
Frédéric se retourna vers lui, sérieux soudain.
« Tu es mal ici ?»
Il secoua la tête.
« Mal ? Je ne serai jamais mal nulle part avec toi, ma chérie. »«
Tu m'aimes, n'est-ce pas ?»
John n'aurait jamais eu l'idée de parler d'amour sur un champ de course, mais il répondit avec élan.
« Éperdument, c'est la chose au monde qui me rajeunit le plus, t'aimer. »«
Rajeunir ? Pourquoi ?»«
Parce que j'ai 36 ans, Frédéric. »«
Je m'en moque. » C'est très jeune, tais-toi.
Frédéric sortit ses jumelles de leur gaine de cuir et s'absorba dans le spectacle de la course. John regardait sa femme avec attention. Elle lui sembla extrêmement jeune. Frédéric avait 22 ans. Bâtie solidement avec des épaules de sportive mais des hanches de garçon, elle avait une jolie silhouette. Sa petite tête fine bouleversait John chaque fois qu'il la regardait. Des yeux mauves, très étranges, s'étalaient comme deux flaques sur un visage félin. Des pommettes saillantes contribuaient à mettre en valeur ce fascinant regard et le reste de la figure disparaissait dans le vague, comme sans importance. Cependant, le minuscule nez retroussé avait définitivement catalogué sa propriétaire parmi les vraies petites parisiennes. Et John avait été ébloui. John, anglais calme et froid, coqueluche des cercles londoniens, gentleman au sens noble du terme, sportsman pour revue en vogue, playboy sans originalité et qui se piquait parfois de politique. John, donc, avait dû abdiquer devant le charme quelque peu agressif de la gamine qu'il avait connue 4 ans plus tôt. Il était aussi calme qu'elle turbulente, aussi pratique qu'elle désorganisée, aussi sociable qu'elle sauvage, aussi blond qu'elle brune, et il n'était que contraste et opposition. Il avait souri, attendri devant les étourderies qu'elle avait multipliées dans la bonne société londonienne, avant et après leur mariage. Il s'était incliné devant les spectaculaires colères de cet enfant gâté. Il avait capitulé, déposé les armes. Il l'avait épousée. Elle cachait la crainte et le respect que lui inspirait son mari sous une désinvolture fabriquée de toutes pièces, mais qui lui allait bien. Si elle tremblait parfois devant lui, elle savait lui faire payer cher ses instants de panique. Lui, il la touchait comme on manipule un bibelot précieux, ou plutôt comme on caresse avec plaisir, mais sans l'oser vraiment, un animal sauvage. Et au milieu de cette angoisse réciproque, ils avaient trouvé un semblant d'entente physique qui leur avait paru une grande victoire. John n'avait jamais demandé aucune explication à Frédéric au sujet de son passé. Il n'avait favorisé aucune confidence et elle n'avait rien dit. Elle vivait avec confiance, il se sentait responsable d'elle et même s'il n'était pas un héros, il incarnait gentiment son rôle de chevalier. Lorsqu'elle avait demandé quelques mois plus tôt « L'Angleterre, c'est bien joli !» Mais et mon pays à moi, ma France ? Il n'avait pas hésité. Il était parti et elle était rentrée. Hé ! Voladio a pris 2 longueurs années de cuir. Allez, Lester, ne te laisse pas faire !
Ce jockey monte n'importe comment, murmura John.
Ne profère pas d'ineptie, veux-tu ? Dis-moi plutôt qui monte Voladio.
John déplia son programme et rechercha le renseignement demandé.
J. Destry.
Annonça-t-il. La réaction de sa femme fut pour le moins inattendue. Elle lâcha ses jumelles qui heurtèrent le sol à grand bruit.
Quoi ?
Elle semblait atterrée. J. Destré, répéta John étonné. Elle lui arracha le programme des doigts, oubliant qu'elle en avait un.
Joël ? Murmura-t-elle. Non, impossible. Joël, ça par exemple.
Qui est-ce ?
« Mais voyons, John, c'est Joël !»«
Ah !»«
Joël, mon copain d'enfance, mon fiancé, mon petit jockey, quoi !»«
Pardon ?»«
Mais enfin, John, je t'ai déjà parlé de Joël, non ?»«
C'est vrai, tu m'en avais dit quelques mots. »«
Il faut que je t'explique. Joël, c'est avant tout... »« Nez de cuir à gagner !»
John ne regardait plus sa femme.
« Ah ! Tant mieux, je savais que c'était un bon cheval. »« Mais je suis en train de t'expliquer que Joël... »«
Voladio est second. »
Oui, mais arrête de m'interrompre!
Je n'ai aucune envie d'écouter tes histoires plus ou moins avouables et propres de gamine.
John!
Frédéric avait empoigné le bras de son mari.
Comment oses-tu parler comme ça, toi? Oh, John, c'est toute mon enfance, tu sais.
Beau square pour une adolescente qu'Auteuil et son PMU.
Je me demande parfois à quoi pensaient tes parents.
Mais tu es jaloux?
Parle doucement, Frédéric. Oui, je suis jaloux.
C'est complètement absurde. On n'a pas le droit d'être jaloux du passé des gens, surtout si on les aime. Et puis j'en ai assez. Tu es triste comme un bonnet de nuit. On ne peut avoir aucune conversation avec toi.
Elle s'interrompit. John la regardait tristement. Elle se radoucit et jeta un coup d'œil autour d'elle. La tribune était vide. Est-ce que c'est réellement triste, un bonnet de nuit, chérie ?